Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 18h30 temps universel. On est mardi 25 juillet 2017 au sommaire. Trois nouvelles attaques terroristes au Burkina Faso font 5 morts près de la frontière malienne. Au Sénégal, interdiction de la manifestation appelée par l'ancien président Abdoulaye Wade. La compagnie minière Rio Tinto promet de coopérer dans le cadre de l'enquête pour corruption la visant en Guinée.
Une telle enquête pourrait faire éclabousser une bonne partie du gouvernement guinéen parce que certains éléments qui ont participé à la négociation avec Rio Tinto occupent aujourd'hui des positions assez importantes.
Interview à suivre dans la partie magazine. Et puis les deux rivaux dans la crise libyenne s'engagent pour un cessez-le-feu et l'organisation d'élections. Ici aux États-Unis, nouvelle tentative d'abrogation de l'Obamacare, l'assurance maladie critiquée par le président Trump. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Cinq personnes ont été tuées lors d'une série d'attaques la nuit dernière dans trois localités du nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Mali. Le point avec Solange Nyamulisa.
Une autorité locale de Djibo a déclaré qu'une attaque perpétrée par des individus armés et non identifiés a fait 5 morts dans la province du Soum. 2 personnes ont été tuées dans le village d'Ndidja, 2 hommes ont été abattus à Sibé et un autre tué à Neida, 2 villages de la commune voisine de Tongo-Mayel. Les assaillants s'est déplacés à moto. Pour les retrouver, la gendarmerie et l'armée font des opérations de ratissage dans la province. Le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières dans la province du Soum, où plusieurs civils et militaires ont été tués. En mars, une opération militaire a été menée à Pétega pour tenter d'en finir avec le djihadiste Haruna Diko, un des lieutenants du prédicateur burkinabé Ibrahim Mahalam Diko, chef du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du pays.
Au Sénégal, les forces de sécurité ont empêché les partisans de l'ex-président Abdoulaye Wade, 91 ans, de se rassembler dans le centre de la capitale. L'ancien président n'a pas rallié le lieu de rassemblement dont les accès ont été bloqués par des barrières installées par les policiers, munis de boucliers de matraques. Et nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a déclaré qu'il récupérait bien de sa maladie. Il se dit prêt à quitter Londres pour reprendre ses fonctions dès qu'il aura le feu vert de ses médecins. Depuis le 7 mai, l'ancien général âgé de 74 ans subit des traitements médicaux dans la capitale britannique. Il n'avait plus été vu en public jusqu'à dimanche dernier, une absence qui avait provoqué un flot de spéculations le donnant à l'agonie ou même mort. Le vice-président nigérian Yogu Obistem Bajo assure ses fonctions en son absence. Au Mali, un célèbre activiste et chroniqueur malien a lancé mardi un appel au calme après avoir été victime dans la nuit d'une tentative d'assassinat à Bamako. Maréchal Madou était au volant de sa voiture vers 1h du matin lorsqu'un inconnu muni d'une arme à feu lui a tiré dessus. Il a été admis dans un hôpital de Bamako. Le jeune homme de 30 ans est connu pour dénoncer la corruption, le népotisme et d'autres travers de dirigeants politiques et religieux dans ses chroniques diffusées sur YouTube, le Maduka Journal et dans d'autres médias. Le numéro 2 de l'opposition en Tanzanie, Tundu Lissu, a été inculpé pour discours de haine après avoir critiqué le président John Magufuli et son gouvernement. Le point avec Yakuba Wiraoko.
Arrêté le 20 juillet, Tundu Lissu a été présenté devant un juge hier, puis renvoyé en prison. Il a plaidé non coupable. Selon Saïd Kabounéa et notre député du Tchadema, le principal parti d'opposition, le tribunal va se prononcer jeudi sur une demande de mise en liberté sous caution. Lors d'une conférence de presse le 17 juillet, le député de l'opposition a qualifié le président John Magufuli de dictateur. Il l'a accusé de vouloir museler l'opposition et d'avoir mis en place un système basé sur le favoritisme, le tribalisme et le régionalisme. Tundu Lissu a également décrit un climat de peur qui règne partout du fait des arrestations répétées de responsables du Tchadema. Lissu est le leader du groupe parlementaire de l'opposition et également bâtonnier de l'ordre des avocats. Surnommé Tinga Tinga, bulldozer en Swahili, le président John Magufuli a mené des actions contre la corruption. Cependant, son style peu consensuel lui vaut d'être qualifié d'autocrate par ses détracteurs.
La campagne électorale pour les élections du 23 août lancée en Angola, João Lourenço, le dauphin du président José Eduardo dos Santos, a réaffirmé son intention de s'attaquer à la corruption à l'occasion du meeting de lancement de la campagne du MPLA. Monsieur Lourenço, 63 ans, est tête de liste du mouvement pour la libération de l'Angola. Le président dos Santos a décidé de ne pas se représenter après 37 ans au pouvoir. L'armée algérienne a annoncé avoir tué deux islamistes armés lors d'une opération à l'ouest d'Alger, portant à 62 le nombre de terroristes abattus depuis le début de l'année, selon le ministère de la Défense. Malgré la mise en œuvre en 2005 d'une charte pour la paix et la réconciliation censée tourner la page de la guerre civile, qui avait fait plus de 200 000 morts pendant la décennie noire, des groupes armés islamistes restent actifs dans l'est et le sud du pays. Les deux protagonistes de la crise libyenne, Faïd al-Sarraj et Khalifa Haftar, ont adhéré aujourd'hui à Paris à un cessez-le-feu et à des élections rapides pour sortir leur pays du chaos. Eric Manirakiza.
Les deux principaux rivaux se sont rencontrés aujourd'hui sous les auspices du président français Emmanuel Macron. Ils se sont d'abord entretenus séparément avec M. Macron, puis autour d'une table en présence du nouvel émissaire de l'ONU sur la Libye, Ghassan Salamé, et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. L'initiative française a abouti à un cessez-le-feu et à des élections au printemps pour sortir la Libye du chaos. Cet accord prévoit aussi la démobilisation des miliciens et la mise en place d'une armée libyenne régulière. En revanche, l'arrêt des hostilités ne va pas s'appliquer à la lutte antiterroriste. Avant cet ultime rendez-vous, l'Élysée a rendu public une déclaration conjointe en 10 points. Faïd al-Sarraj et Khalifa Haftar affirmaient que seule une solution politique permettra de sortir de la crise. Ils ont également réitéré la validité des accords de Skhirat de 2015, facilités par l'ONU. Faïd al-Sarraj, chef du gouvernement de Tripoli, et Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, ne contrôlent pas tout le pays. Plusieurs autorités rivales et des myriades de milices se disputent le pouvoir. La menace djihadiste persiste, ainsi que les trafics d'armes et d'êtres humains.
L'Union européenne a prolongé jusqu'à fin 2018 le mandat de l'opération navale Sophia pour s'attaquer aux passeurs en Méditerranée. La mission Sophia participe également à la formation des gardes-côtes libyens et de la marine libyenne. Elle contribue aussi à la mise en œuvre de l'embargo des Nations Unies sur les armes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sénateurs américains doivent voter ce mardi pour relancer leur promesse d'abroger la réforme du système de santé de Barack Obama, longtemps promise par les républicains. John Lindon.
Sous pression du président Donald Trump, le chef de la majorité du Sénat, Mitch McConnell, a confirmé que ce vote à suspense aurait bien lieu après plusieurs reports. Les enjeux sont minimes. Il s'agit d'ouvrir formellement les débats sur l'abrogation de la loi démocrate de 2010. Au Sénat, rien ne peut être mis à l'ordre du jour sans ce vote de procédure. Toutefois, un vote négatif marquerait pour le moment la fin du processus. Il serait ressenti comme une nouvelle gifle contre le Parti républicain et Donald Trump, qui a mis tout son poids dans la balance pour que sa majorité tienne sa promesse de campagne de supprimer Obamacare. Sur les 52 sénateurs républicains, 3 ont déjà déclaré qu'ils voteront contre. L'arithmétique étant très serrée avec 100 sénateurs, le républicain John McCain, diagnostiqué d'un cancer du cerveau, a assuré qu'il sera aujourd'hui à Washington pour voter.
Et puis le ministre américain de la Justice serait-il sur un siège éjectable? En tout cas, le président Donald Trump s'en est encore pris à lui dans un tweet ce matin. Le ministre de la Justice Jeff Sessions a adopté une posture très faible sur les crimes de Hillary, a-t-il écrit. Un nouveau tweet cinglant qui fait suite à une série d'attaques contre Jeff Sessions, qui avait été l'un de ses premiers et plus précieux alliés lors de la campagne électorale. Incident en mer, un patrouilleur de la marine américaine dans le golfe Persique a tiré des coups de semonce contre un vaisseau iranien après que ce dernier s'est approché à moins de 140 mètres. Selon un responsable américain de la défense, le bateau de la marine iranienne s'approchait à grande vitesse et ne répondait pas aux signaux et aux appels. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Blanche Sanou.
En Gambie, le nouveau gouvernement veut lancer une opération de modernisation du port de Banjul, moteur de son économie. Pour le financement, le directeur du port, Abdoulaye Tambédou, a déjà reçu des offres étrangères chiffrées à plusieurs centaines de millions d'euros. Construit en 1972, le port de Banjul permet de desservir la Casamance, une partie de la Guinée et le Mali, plus rapidement que les autres ports de la région. Selon le professeur de sciences économiques Momodou Fane, le port va permettre à la Gambie de s'ouvrir sur le monde et développer son commerce extérieur. La gomme arabique est en pleine croissance dans les pays francophones de la zone sahélienne, à commencer par le Mali. Les qualités de ce produit, issu des acacias, sont aujourd'hui utilisées à 80% par l'industrie agroalimentaire, avec une exploitation qui a progressé de 2% pendant plus de 15 ans, de 80 000 à 112 000 tonnes en 2016. Bénéficiant d'une stabilité de prix, la gomme arabique devrait voir son exploitation renforcée dans les pays africains. Le président et fondateur du site de e-commerce Alibaba, le chinois Jack Ma, a annoncé la création d'un fonds de 10 millions de dollars pour les jeunes entrepreneurs africains. Lors de sa première tournée africaine, l'entrepreneur compte travailler avec la CNUSSID pour faire venir 200 entrepreneurs africains en Chine pour apprendre d'Alibaba. Jack Ma a aussi annoncé qu'il prévoyait de développer un partenariat avec des universités africaines pour qu'elles offrent des formations aux technologies liées à Internet, à l'intelligence artificielle et au e-commerce.
Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Alors on démarre cette page des sports avec les Jeux de la Francophonie à Abidjan.
Oui, en football, dans le groupe A, la Côte d'Ivoire a disposé du Liban 2-0 et le Burkina a infligé à la Guinée sa première défaite 2-1. En athlétisme, le Français Loïc a décroché la médaille d'or aux 110 mètres haies chez les hommes en 13 secondes 74. La Burkinabé Mat Kuala fait pareil chez les dames en 13 secondes 32. Au 3000 mètres steeple dames, la Marocaine de 22 ans Fadwa Sidi Manam remporte la course en 9 minutes 44.
Le troisième tour préliminaire de la Ligue européenne des champions se joue aujourd'hui.
Tout à fait, l'opposition entre l'AEK d'Athènes et le CSKA Moscou et la rencontre Partizan Olympiakos représentent les deux principales affiches du jour. À suivre également Karabakh FC de l'Azerbaïdjan contre FC Sheriff Tiraspol de la Moldavie. Le FC Bucarest de la Roumanie sera opposé à Victoria Plzeň de la République tchèque. Et le Bate Borisov de la Biélorussie sera aux prises avec Slavia Prague de la République tchèque.
La CAF a réaménagé le calendrier de la phase à élimination directe des compétitions interclubs.
Oui, initialement prévu du 8 au 10 septembre, les quarts de finale aller de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se dérouleront le week-end du 15 au 17 septembre. Les matchs retour sont prévus une semaine plus tard. Quant au match aller des demi-finales, il reste maintenu entre le 29 septembre et le 1er octobre. Mais les rencontres retour ont été décalées d'une semaine et se dérouleront entre le 20 et le 22 octobre au lieu du 13-15. Les dates des finales demeurent inchangées, 27 au 29 octobre pour l'aller et 3 au 5 novembre pour le retour en Ligue des champions. Quant à la finale de la Coupe de la Confédération, la phase aller est prévue entre le 17 et le 19 novembre et le retour entre le 24 et le 26 novembre.
Tentative folle de transfert en football, Neymar, oui, mais n'oublions pas Mbappé.
Effectivement, il n'y a pas que l'avenir de Neymar qui agite le mercato. Le quotidien sportif espagnol Marca a relancé le feuilleton Kylian Mbappé. Le journal a annoncé un accord de principe entre le Real de Madrid et Monaco pour le transfert du prodige français, ce que les Monégas se sont empressés de démentir. Qu'à cela ne tienne, ce sont les sommes qui donnent le tournis. Marca évoque un montant avoisinant 180 millions d'euros pour un attaquant qui n'a que 18 ans et qui compte moins de 20 titularisations en championnat de France.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Africa. À présent, les dossiers du jour. Les frères ennemis libyens Faisal Sarraj et Khalifa Haftar se sont rencontrés en région parisienne sous l'égide du président Emmanuel Macron. L'Élysée a annoncé l'adoption d'une déclaration commune pour un cessez-le-feu et pour des élections rapides afin de sortir leur pays du chaos. Ekiabadou a joint Abdelkader Kadoura, il est professeur de droit à l'université de Benghazi dans l'est de la Libye.
N'importe quelle rencontre entre les chefs libyens, les personnalités libyennes, ça c'est très bien pour la Libye et les Libyens. Ils l'accueillent avec tout le souhait de trouver une solution d'une sortie de crise où on vit actuellement en Libye. C'est un bon signal, je trouve.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une faisabilité? Quelle est la valeur du cessez-le-feu dans un pays où des milices ne sont pas totalement maîtrisées?
Vous savez, les milices, ils sont régionalisés actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des régions du Tripoli, il y a des milices, à partir de Misrata jusqu'à Tripoli. Et bien, il y a des milices aussi un petit peu au sud de la Libye. En cas que non-respect de ces cessez-le-feu-là, qui va obliger les gens de respecter ces cessez-le-feu? Donc ça, c'est le problème. À côté de l'armée, je pense qu'il n'y aura pas de problème, parce que c'est une armée, il faut arrêter ces cessez-le-feu immédiat. Mais l'autre côté, il y a des petits groupes partout dans le désert ou dans les villes. C'est très difficile à maîtriser.
Vous qui êtes sur place, est-ce que vous pensez que l'avant et l'après Kadhafi a changé les choses?
Vous savez, c'est un système très militarisé. À l'époque, Kadhafi, c'est un dictateur. Il a pu imposer sa volonté partout en Libye, hein, par la peur et par la force. C'est comme ça, c'était à l'époque de Kadhafi. Après l'éclatement du 17 février, alors de 2011, bon, ça c'est un pays aussi du tiers-monde, il ne faut pas oublier. Hein. Si chacun il veut s'imposer, moi je suis là. Et dans l'absence de trouver un système de remplacer le système de Kadhafi, on a tombé dans le désordre. Mais maintenant, je pense, avec un petit peu d'aide, on peut s'arranger. Le côté de l'Est de la Libye, moi je suis à Albeïza. Vous m'avez téléphoné, je suis à Albeïza actuellement. Mais je suis de Benghazi. Je suis venu ce matin à Albeïza parce que j'ai une réunion pour l'Assemblée constituante. Constituante de la Libye. Donc, mais on peut prendre la voiture à peu près de Sirte, avant Sirte, jusqu'à la frontière égyptienne. Il n'y a aucun problème de sécurité actuellement.
C'était Abdelkader Kadoura, professeur de droit à l'université de Benghazi, dans l'est de la Libye.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Sénégal, l'ex-président Abdoulaye Wade, âgé de 91 ans, avait appelé à une marche ce mardi à Dakar pour réclamer les cartes d'électeurs pour les législatives de dimanche prochain. La manifestation a été interdite par Serigne Babacar Khan, il est le préfet de la capitale, Dakar. Il a évoqué un arrêté de 2011, quand Abdoulaye Wade était lui-même au pouvoir. Idriss Fall a joint à Dakar l'analyste politique Abdoulou.
La manifestation a été interdite très clairement hein, par la préfecture de Dakar et le ministère de l'Intérieur. Maintenant, au moment où je vous parle, ils essaient de voir, je vois par quel moyen forcer le barrage. S'ils essaient de le faire, il y aura du grabuge. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, parce que personne n'a envie de se manger des lacrymogènes ou des matraques, surtout par cette chaleur-là qu'il y a à Dakar actuellement. Le grand paradoxe, c'est que l'interdiction de manifester qui est servie aujourd'hui est une initiative de sa part. C'est le fameux arrêté Ousmane Gom, du nom de son ministre de l'Intérieur en 2011. Quand il interdisait aux Sénégalais d'aller manifester au centre-ville sous prétexte de sécurité. C'est cet arrêté-là qui est servi aujourd'hui par le gouvernement actuel.
Abdoulaye Wade, qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau au niveau de l'Assemblée?
Principalement, son objectif, c'est de bousculer un peu le gouvernement actuel. Il espère que l'opposition aura une majorité au Parlement pour essentiellement d'enlever l'épée de Damoclès qui pèse sur son fils. Il revient sur l'arène politique, dans l'arène politique, en se disant que ça reste quand même une bête politique. Une bête médiatique, donc son retour à Dakar a agité le landerneau politique. Il espère que cela pèsera suffisamment sur le scrutin dimanche prochain pour basculer au niveau du Parlement, que l'opposition l'emporte là-bas pour bloquer toutes les initiatives du gouvernement de Macky Sall. Beaucoup de choses peuvent être reprochées au gouvernement actuel, notamment sur cette affaire des cartes électeurs qui ne sont pas distribuées. On parle de 6 millions de cartes électeurs et 1 million parmi ces 6 millions ne sont pas distribuées. Wade joue sur cette frustration née de cette histoire de carte électeur pour demander aux Sénégalais d'aller réclamer leur carte.
47 listes, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce qu'on va les tenir dans les bureaux de vote?
Techniquement, c'est très compliqué parce que malheureusement, la politique est devenue une entreprise. Ce que j'appelle, ce sont des entrepreneurs politiques, des gens qui comptent sur la politique pour vivre. Donc, il y a 47 listes qui peuvent se, si vous voulez, schématiser en trois grands groupes. Le premier, c'est le groupe du parti au pouvoir. Ensuite, il y a l'opposition classique, significative, avec le Parti démocratique sénégalais, le Réuni, le groupe de Khalifa Sall, le maire de Dakar. Malheureusement, la guerre des égos a eu lieu. Personne n'a voulu se ranger derrière l'autre. Vous avez également autant de partis issus de ce qu'on appelle la société civile. C'est tout cela qui fait qu'on a 47 listes. Techniquement, ça va être très compliqué pour s'y retrouver. Les bulletins vont se ressembler furieusement. Il n'y a pas 47 couleurs. Donc, tous ceux qui ne sont pas très lettrés, qui ont du mal à s'y reconnaître, vont voter très, très mal en se trompant ou en créant des bulletins nuls. Je veux dire, il y aura une perte de temps extraordinaire. Même si la loi a été modifiée pour que l'électeur puisse choisir que 5 listes parmi les 47, mais le choix de 5 listes, il faut regarder les 47 en prendre 5. Ça ne fait pas gagner du temps du tout. Donc, techniquement, ça va être très, très compliqué.
C'était l'analyste politique sénégalais Abdoulou.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée, une enquête pour corruption présumée vise le groupe minier anglo-australien Rio Tinto dans la conduite de ses affaires dans le pays. Le Serious Fraud Office, à l'initiative de cette procédure lancée au Royaume-Uni, a étendu les investigations sur les employés du groupe et ses autres associés. Rio Tinto a promis de coopérer pleinement. Et pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Conakry le journaliste spécialiste des mines Akumba Diallo.
Rio Tinto est accusé d'avoir versé un montant d'environ 10-15 millions de dollars à un Français qui a été intermédiaire avec la Guinée dans le cadre de la négociation de son accord transactionnel de 2011 avec la Guinée. Donc, une telle enquête pourrait faire éclabousser une bonne partie du gouvernement guinéen parce que certains éléments qui ont participé à la négociation avec Rio Tinto occupent aujourd'hui des positions assez importantes. Et nous savons aussi qu'il y a des cabinets d'avocats qui ont accompagné à la fois Rio Tinto et la Guinée qui pourraient probablement être au courant de certaines pratiques qu'on croit être répréhensibles par la loi aujourd'hui.
Comment cette affaire est-elle perçue à Conakry, notamment par le gouvernement?
J'avoue que je n'ai pas encore une connaissance d'une déclaration officielle du gouvernement par rapport à l'évolution du dossier qui a été annoncé hier. Mais je sais que par le passé, quand il y a eu l'affaire de François de Combrette, le gouvernement avait décidé, à travers un de ses communiqués, de coopérer avec la justice, quelle que soit la nationalité, pour pouvoir éclaircir cette affaire.
Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de cette affaire, les résultats pourraient aboutir à la remise en cause de la procédure actuelle de l'attribution des marchés des mines?
Avec une telle enquête, on saura probablement que rien n'est confidentiel dans le business. C'est-à-dire que tout peut arriver un jour à être à la place publique. Et tout ce qui concerne Rio Tinto entre 2011 et 2014 devrait être connu du président de la République des États-Unis parce que, je me rappelle, je revois encore les images en mémoire, où il présidait la signature officielle de cet accord transactionnel. Cela m'amène à dire qu'il ne devrait pas ignorer tout ce qui s'est passé en dessous. Ça va bouleverser la stratégie du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, Rio Tinto a décidé de se désengager du projet Simandou, de vendre ses actifs à Chinalco, qui est son partenaire dans le projet Simandou. L'ouverture de cette enquête au niveau du Royaume-Uni pourrait quand même amener les Chinois à s'éloigner davantage du projet Simandou. Et cette affaire pourrait, entre autres, bouleverser la stratégie interne du gouvernement en matière de mise en valeur des ressources naturelles.
C'était le journaliste guinéen spécialiste des mines Akumba Diallo.
Dans
Washington Forum cette semaine, la CEDEAO et son objectif de 3 enfants maximum par femme d'ici 2030. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad veulent faire baisser de moitié le taux de fécondité le plus élevé au monde. Pourquoi un tel projet? Quels enjeux économiques et sociaux? À l'horizon 2050, un continent en majorité composé de jeunes, quel avenir pour eux? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Et justement, le Parlement de la CEDEAO a déclaré samedi dernier vouloir se fixer comme objectif de limiter à 3 le nombre d'enfants par femme d'ici à 2030. Les pays de la CEDEAO ont les taux de fécondité les plus élevés au monde. Pour un éclairage, Claire Moinjibour a joint le directeur régional du FNUAP, Mabigé Ngom.
Oui, non, moi je crois que remercier la CEDEAO donc pour avoir pris très au sérieux la question du poids démographique très fort que nous connaissons en Afrique de l'Ouest et du Centre, et poids démographique qui, à mon avis, est à l'origine de beaucoup de problèmes de développement, de paix et de sécurité que nous connaissons dans cette partie du monde.
Est-ce que vous pensez que ces objectifs sont réalisables?
Oui, je crois que ce qui est important, c'est d'attacher une importance toute particulière à la question du courant démographique. Et je pense que de travailler avec les pays, mais tout en restant dans les grandes orientations des droits de l'homme. Je pense qu'il est possible, en tout cas, de travailler avec les pays, les populations, les individus et les familles, donc pour, en tout cas, aller dans le sens un peu d'une réduction significative du taux de fécondité. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut fixer une limite? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser, mais je crois que pousser vers l'accélération de la baisse de la fécondité, je pense, permettra à l'Afrique d'être au rendez-vous de 2030 et de 2063.
Alors, prenons le cas du Niger, qui a le taux de fécondité le plus élevé. Que faut-il mettre en place au Niger pour atteindre cet objectif?
Oui, je crois que nous avons déjà des initiatives assez agressives, notamment le programme, le partenariat, que nous appelons un peu le programme Sahel, l'autonomisation des femmes, et dividendes démographiques au Sahel qui concerne 6 pays, dont le Niger. La première chose, je pense qu'il faut absolument accélérer la mise en œuvre de ce programme. Deuxièmement, il faut donc passer à l'échelle, parce que même si on versait les 210 millions de dollars de financement au Niger, on ne doit pas voir le bout du tunnel. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est vraiment de faire en sorte qu'on élargisse les partenariats et faire venir autour de la table des leaders religieux et communautaires avec lesquels nous sommes en conversation. Nous pensons que ces leaders communautaires, ces leaders religieux ont la capacité, ont la possibilité de nous faire réaliser ce que nous ne sommes pas capables de réaliser avec des milliards de dollars. Et beaucoup plus important, à chaque fois que vous faites un saut qualitatif à travers l'engagement positif pour la réalisation de ces objectifs, vous n'allez jamais reculer.
C'était Mabigé Ngom, le directeur régional du FNUAP.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma et Niejela. À la console, Thomas Blondet. À la présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM. Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.